nous apporter ce message de portes ouvertes. Et voilà, on va prier pour mettre ce temps. Seigneur, que tu nous permettes ce matin, peut-être plus particulièrement, d'être en communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde, Seigneur, qui peut-être se cachent en ce moment, peut-être sont dans des petites maisons de groupes de maisons, Seigneur, et vivent leur temps de culte, et que voilà, nous puissions nous aussi être reconnaissants de la liberté que nous avons et de pouvoir aussi faire nôtre toutes ces paroles, Seigneur. Amen.
Nous traversons tous, durant certaines périodes de notre vie, des moments de désert ou de difficulté. Ces moments difficiles, d'adversité, soulèvent souvent des questions relatives à l'amour de Dieu pour nous. Il peut aussi nous sembler que Dieu soit lointain et inactif à nous sauver. Ces interrogations peuvent nous éloigner de lui et compromettre notre foi. L'histoire du peuple d'Israël et le témoignage de chrétiens vivant sous la persécution peuvent-ils nous aider à décoder ces choses? Que montrent les histoires bibliques de la manière dont Dieu prend soin de son peuple? Serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent même au cœur de nos épreuves. Et je vous invite à lire ensemble une histoire de l'Ancien Testament et à entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est donc dans Samuel, chapitre 7, verset en entier d'ailleurs, verset 1 à 17. Les gens de Kiriath-Yéarim vinrent donc le chercher et le transportèrent dans la maison d'Abinadab, qui se trouve sur une colline. Ensuite, ils consacrèrent Élazar, fils d'Abinadab, comme gardien du coffre du Seigneur. Après que le coffre sacré du Seigneur eut été déposé à Kiriath-Yéarim, beaucoup de temps s'écoula, une vingtaine d'années. Les Israélites aspiraient à se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit: Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, cessez d'adorer les idoles d'Astarté et de tous les autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le, lui seul. Alors, il vous sauvera du pouvoir des Philistins. Les Israélites rejetèrent donc les idoles des dieux Philistins. Pardon. Les Israélites rejetèrent donc les idoles des dieux de Baal et de la déesse Astarté, et ils adorèrent le Seigneur seul. Samuel ordonna ensuite que tout le peuple se rassemble à Mizpa. Là, je prierai le Seigneur en votre faveur. Les Israélites se rassemblèrent à Mizpa, ils puisèrent de l'eau, la répandirent sur le sol devant le Seigneur et jeûnèrent ce jour-là. Enfin, ils confessèrent qu'ils étaient coupables envers le Seigneur. C'est là, à Mizpa, que Samuel devint le chef du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites étaient rassemblés à Mizpa, leurs chefs décidèrent d'aller les attaquer. À cette nouvelle, les Israélites furent effrayés et ils dirent à Samuel: Ne nous abandonne pas! Ne cesse pas de supplier le Seigneur notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit en sacrifice au Seigneur en le brûlant complètement. Puis il supplia le Seigneur en faveur des Israélites et le Seigneur l'exauça. En effet, tandis que Samuel offrait le sacrifice, Les Philistins s'étaient avancés pour attaquer Israël. Mais alors, le Seigneur fit retentir le tonnerre, à grand fracas, jeta la confusion dans l'armée des Philistins, qui furent battus par les Israélites. L'armée d'Israël sortit de Mizpa, poursuivit les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Kar et les battit complètement. Samuel s'écria: Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il prit alors une pierre, la dressa entre Mizpa et la dent de et l'appela pierre du secours. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Le Seigneur leur fit sentir sa puissance, tant que vécut Samuel. Et ils ne recommencèrent plus à envahir le territoire d'Israël. Les localités que les Philistins avaient prises aux Israélites dans la région située entre Écron et Gath furent rendues aux Israélites. Cette région fut ainsi libérée de la domination des Philistins. La paix régna également entre les Israélites et les Amorites. Samuel fut le chef du peuple d'Israël jusqu'à sa mort. Chaque année, il se mettait en route et passait par Bethel, le Gilgal et Mizpa pour rendre la justice dans ces trois villes. Puis, il rentrait chez lui à Rama, où il rendait aussi la justice pour les Israélites. C'est là qu'il construisit un autel pour le Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Cette histoire se déroule dans un contexte difficile de l'histoire du peuple d'Israël. Elle clôture la période des juges racontée dans le livre éponyme. La relation entre Dieu et son peuple est en dents de scie, le même cycle se répétant plusieurs fois. D'abord, Israël s'éloigne de Dieu et adopte les idoles des peuples voisins. Puis, cet éloignement empêche la bénédiction et la protection de Dieu. Les ennemis d'Israël peuvent alors prendre le dessus et maltraiter le peuple de Dieu. Après quoi, Dieu appelle et envoie un homme pour amener le peuple à lui et le délivrer de l'oppression. Puis le cycle recommence quelques dizaines d'années plus tard. Nous venons donc de lire ici en quelque sorte un énième épisode de cette histoire plusieurs fois reproduite. La lecture du contexte montre qu'Israël avait une mauvaise compréhension de la signification de son alliance avec Dieu. Il considérait que la simple présence à ses côtés de l'arche de l'Alliance, le coffre sacré au-dessus duquel Dieu habitait, constituait en soi comme une garantie de l'action de Dieu en leur faveur lors des batailles, de sorte qu'ils auraient alors nécessairement la victoire. Au contraire, Dieu attendait un réel attachement du cœur du peuple et une adhésion exclusive de toute idole. Cette erreur de compréhension crée auprès d'Israël une attente d'un secours qui ne venait pas. Et le peuple était déboussolé et déçu. Le peuple d'Israël qui se réjouissait de la présence de Dieu, mais l'honorait mal, était donc puni pour son attitude, qui tenait plus de la superstition que de la foi obéissante. Dans le texte, nous lisons que l'arche de l'Alliance, rendue par les Philistins, est restée 20 ans à Kirjath-Jéarim, dans la maison d'Abinadab. Le peuple avait ainsi mis à l'écart leur culte à Dieu, car ils en avaient maintenant peur. et ne savait comment gérer sa présence au milieu d'eux. Cette situation illustre peut-être une réalité spirituelle toujours présente de nos jours. Avons-nous peur d'aller plus loin avec Dieu? De ce qu'il pourrait nous demander de faire? Préférons-nous vivre en marge de sa présence dans nos vies, nous appuyant sur une fausse sécurité? Laissons-nous insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles que l'on suit. Alors que Jésus nous appelle à une relation vivante de tous les jours avec lui. Ou peut-être professons-nous le Seigneur de notre bouche, mais ne savons comment lui plaire par une foi obéissante. L'arche a donc été négligée. Et le peuple d'Israël s'est peu à peu éloigné de Dieu. Encore une fois, en conséquence de son péché et de son rejet de Dieu, l'oppression des ennemis s'appesantit de plus en plus sur lui. Du fait de l'épreuve, le peuple revient à Dieu dans une repentance sincère. L'oppression est donc d'une part la conséquence de l'infidélité du peuple, mais d'autre part aussi le moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple à lui. Il change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. De même, de nombreuses histoires de chrétiens persécutés témoignent de cette réalité. Sans que ces chrétiens aient nécessairement péché ou se soient éloignés de Dieu, lorsque les choses vont mal, ils se sont naturellement réfugiés et rapprochés de lui. Et cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve. De sorte que les difficultés et les persécutions leur sont finalement profitables. Kamala Népali. Kamala Népali est née dans une famille hindoue, au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse. Et elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Des années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle, l'empêchant de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à la famille chrétienne et à la foi. Omar, qu'on a vu dans la vidéo. Le pasteur Omar sert Dieu dans le nord du Mozambique, une zone où la persécution violente contre les croyants est malheureusement pratique courante. Malgré les menaces, les agressions et même de fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'Évangile et à former de nouveaux disciples. Un jour, un groupe islamiste l'attaque, le jette par terre, le lie et s'apprête à le frapper violemment à la tête avec un bâton. Il pense sa dernière heure arriver. Mais c'est à ce moment précis qu'il vit une expérience puissante de la présence de Dieu à ses côtés. La promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par la foi, il s'accroche à cette phrase comme à une ancre. Sa délivrance intervient avec l'arrivée de l'armée régulière. Je reviens au texte. Samuel est le prophète de Dieu. Et son attitude nous parle de la manière dont Dieu lui-même réagit vis-à-vis du peuple. Nous notons une pleine adhésion de sa part lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère de retour à Dieu. Il accueille le peuple avec joie et lui rappelle les conditions de retour réel à Dieu. Assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Il est tellement réconfortant de constater que Samuel ne fait pas de reproche au peuple, comme Dieu non plus n'en fait pas. Lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité, Samuel accueille et encourage la démarche du peuple, lui montre ce que Dieu attend et participe lui-même pleinement au retour à Dieu. Il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Lorsque Kamala revient à sa famille et à Dieu, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer le divorce et la persécution de son frère qui n'est pas chrétien. Mais elle trouve refuge en Dieu et le recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa femme, sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car il lui a fait bon accueil. Les paroles de Samuel montrent la nécessité d'une démarche sincère. Il parle de la réalité profonde du cœur des personnes qui souhaitent revenir à Dieu. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Le Seigneur ne peut se satisfaire de démarches formelles ou liturgiques si elles ne sont pas vécues profondément et en vérité. Il désire que nous manifestions un élan sincère vers lui, une repentance véritable et profonde. Les faux-semblants, les gestes et paroles superficielles ne lui conviennent pas. Lorsque nous revenons à Dieu, faisons-le sans arrière-pensée et de tout notre cœur. Le peuple d'Israël est à cet égard un exemple pour nous. Ils rejettent en effet leurs idoles, reconnaissent et confessent leurs péchés et même engagent un jeûne. Oui. Ils se tournent pleinement vers Dieu, en toute sincérité. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, Assemblez tout Israël à Mizpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mizpa et puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mizpa. Les Philistins constatent un rassemblement du peuple d'Israël et se rangent en bataille contre eux. Cette fois, enfin, Dieu accorde une pleine délivrance à son peuple qui repousse l'ennemi à ses frontières. Cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a accordé au peuple repentant. Elle atteste du rétablissement d'Israël dans son alliance avec Dieu. Pour commémorer cette victoire et en garder le souvenir, Samuel place la pierre, Ebenezer, la pierre du secours, sur le lieu même de la défaite historique que le peuple d'Israël avait subie des années auparavant. Défaite qui avait permis à l'oppression de l'ennemi de s'installer durant si longtemps. Enfin, un temps de délivrance et de repos. La pierre posée, Ebenezer, est une proclamation du plein rétablissement d'Israël dans son territoire, mais aussi et surtout dans son alliance avec Dieu. Il va maintenant bénéficier d'une paix durable. Cet happy end illustre ce que Dieu peut et veut faire également dans vos vies, dans nos vies. Il souhaite restaurer et bénir chacun dans de nombreux domaines et nous accorder sa paix et sa joie surnaturelle. Une vie de liberté et de victoire est possible lorsque l'on revient à lui dans la sincérité et la repentance, ainsi que le peuple d'Israël l'a expérimenté. La pierre commémorative posée par Samuel est un signe de reconnaissance à Dieu, ainsi qu'un rappel pour les générations futures. Elle constitue une pierre de référence, un signe visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à leur égard. La parole de Samuel lors de l'inauguration de cette pierre souvenir montre que son regard s'étend à toute la période des juges. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle, dans le sens qu'il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à faire de temps en temps des points de marche dans notre vie pour jeter un regard en arrière à froid et reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même dans les temps de difficulté? Ne devons-nous pas, nous aussi, reconnaître la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté maintes fois démontrées dans notre histoire passée? Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire, nous plaçant dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus et dans certains cas aussi corrigés avec amour pour nous ramener sans cesse à lui. Peut-être même pouvons-nous placer de manière visible dans notre environnement de vie, dans notre logement, des pierres souvenirs, témoignant des interventions de Dieu en notre faveur, de sorte de ne pas oublier sa grande fidélité à notre égard. Ces souvenirs sont alors comme autant de témoignages auprès de notre famille ou de nos amis pour faire connaître et honorer la fidélité de Dieu. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche et jusqu'à aujourd'hui, et que nous pouvons dire avec Samuel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous fortifions notre foi et nous la faisons gagner en maturité. Nous devenons de plus en plus forts pour affronter les difficultés de demain. Ayant expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu dans le passé au cœur même de l'épreuve. Ces frontières, cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a. Pardon, excusez-moi, je me trompe, ça ne va pas. Attendez, je reprends où j'en étais. Voilà. Je reviens au témoignage d'Omar, pardon. Suite à la persécution, Omar et sa femme sont contraints de déménager. Ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fidélité de Dieu est prouvée par Omar, ayant renforcé sa foi. Il décide de revenir vivre sur les lieux où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici asservir les disciples et l'Église de cette région et être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi, je suis aussi passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté. De souffrir pour le nom de Jésus, c'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Sachons regarder en arrière. Considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées, de son pardon, toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours, apprenons à revenir sans cesse à lui, dans l'humilité et la repentance, de sorte à grandir dans notre foi et notre intimité spirituelle avec lui. Soyons également attentifs à la voix du Saint-Esprit en nous. Ne sommes-nous pas invités à être l'expression du secours et de la fidélité de Dieu pour notre entourage et pour l'Église persécutée? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il sera notre secours à tous, encore dans l'avenir. Amen.